Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Laisser sortir Marc Dutroux, c'est évidemment l'une des questions qu'on va aborder avec vous, maître Bruno Daillé, qui est depuis 2016 donc l'avocat de Marc Dutroux. Peut-être d'abord, faut-il que vous nous expliquiez dans quelles conditions vous êtes devenu l'avocat de Dutroux ?
À la demande de l'aumônier de la prison de Nivelles où il était détenu, détenu dans un isolement strict puisqu'il subit un régime spécial de détention qui l'isole de tous ses coreligionnaires et qui le fait vivre dans une solitude à peu près absolue.
C'est une décision qui est difficile à prendre, je suppose, être l'avocat de Dutroux.
De fait, il a fallu plusieurs mois pour que, dirais-je, nous nous apprivoisions, c'est-à-dire que je puisse faire un minimum confiance dans ce client qui n'est pas vraiment un client, puisque je m'empresse de dire que j'interviens pour la beauté du geste et conformément à ma ligne de conduite en tant qu'avocat, et pour que lui-même aussi m'investisse de sa confiance. S'il n'y a pas un minimum de lien de confiance, le lien entre avocat et client est impossible à tenir sur le moyen terme.
Mais ma question concernait l'opinion publique, et éventuellement d'ailleurs vos confrères avocats. Est-ce que assumer ça face à eux est difficile ?
Face aux confrères, certainement pas, parce qu'ils partagent la même idéologie qui consiste à dire que tout le monde a le droit d'être défendu et que donc que les avocats ont le devoir de défendre n'importe qui sans aucune exception, mais pas n'importe comment, me plais-je à dire. L'opinion publique, c'est un autre débat, c'est une autre paire de manches. Évidemment, ma caractéristique est que j'ai clairement médiatisé la question de la libération de Marc Dutroux en publiant en 2008 un opuscule intitulé de façon peut-être jugée à tort provocante « Pourquoi libérer Dutroux ?» avec un point d'interrogation. C'était une question dont je voulais qu'elle fasse débat.
Elle
a fait un énorme débat, non seulement en Belgique, mais également dans la plupart des pays d'Europe, parce que vous rencontrez évidemment dans chaque territoire des situations assez similaires à celles que l'on connaît avec l'affaire Dutroux, quelle que soit la médiatisation dont cette dernière affaire a fait l'objet depuis, de manière quasiment ininterrompue depuis un quart de siècle. L'opinion publique, c'est un... Pourquoi agiter l'opinion publique ? Parce que je voulais que la question de la perpétuité réelle fasse débat, que la question de ses conditions de détention fasse débat, peut-être autant pour lui que pour qu'il n'y ait pas d'autres Dutroux dans l'avenir. Votre émission a largement épinglé les carences de l'enquête, vous avez qualifié cette affaire de rocambolesque et je ne vous donnerai pas tort, jusqu'y compris l'épisode tragicomique de son évasion manquée, dû en fait à la négligence de ceux qui étaient préposés à le surveiller. Donc l'opinion publique, avec beaucoup de réactions en sens très divers, j'ai dit à la télévision belge que je m'étais fait 9 millions d'ennemis et 1 million d'amis, et je crois que la proportion est à peu près de cet ordre, c'est-à-dire beaucoup de messages de gens qui comprenaient le sens de mon combat et beaucoup d'incompréhension malgré tout au niveau de l'opinion générale auprès de laquelle il a fallu rendre compte de mes raisons.
Je crois me souvenir qu'à un moment vous avez été sous protection policière. C'est le cas toujours ?
Oui, je l'ai été de façon heureusement assez théorique parce qu'un individu que je ne nommerai pas avait brûlé mon livre sur Facebook et s'était attiré 700 000 vues en quelques jours. Donc on a jugé nécessaire de mettre moi-même et ma famille sous protection.
Avant d'aborder de face la question de sa libération, je suppose que vous le voyez régulièrement en prison. Dans quel état est-il ? J'ai envie de vous poser la question comme ça.
Alors, vous devez vous rendre compte qu'il vit dans un espace confiné de 9 mètres carrés, totalement reclus sur lui-même et sans aucun contact avec l'extérieur. Donc, je suis à peu près son seul visiteur depuis la mort inopinée de l'aumônier. Il mange en cellule, donc isolé des autres détenus avec lesquels on prend un soin minutieux à ne pas le mettre en contact. Quand je le reçois au parloir, nous sommes enfermés comme s'il allait me dévorer. Et comme si on devait se protéger du danger qu'il représenterait en quelque sorte 24 heures sur 24. Ça, ce sont ses conditions de détention.
Mais ça veut dire que ça l'a rendu fou.
Alors, non, les psychiatres en tout cas sont unanimes pour dire qu'il ne souffre d'aucune pathologie mentale. Il n'est donc pas fou au sens courant du terme. Il est évident que ces conditions marquent profondément n'importe quel individu humain. Donc, et pour moi, Marc Dutroux reste une personne et non un monstre qui n'existe que dans les contes de fées. Donc, c'est un homme qui reste debout, mais qui forcément ratiocine, donc est en train de reconstruire continuellement sa propre histoire et n'a pas d'interlocuteur valable. Donc il n'est pas dans des relations interpersonnelles qui le feraient évoluer. Il ne reçoit quasiment aucun soin. Il reçoit la visite épisodique d'un psychiatre qui est juste chargé de considérer qu'il peut conserver des conditions de détention sans verser dans le suicide ni la folie, mais malgré tout, il est évidemment très très profondément marqué dans sa personnalité par cette situation de solitude qui me paraît personnellement totalement effarante et, faut-il le dire, inhumaine.
Alors, est-ce que Marc Dutroux lui-même vous a dit qu'il souhaitait formuler une demande de libération conditionnelle ?
Alors, la loi belge nous obligeait d'en introduire une formellement pour avoir accès à la demande d'un collège d'experts psychiatres à laquelle le tribunal d'application des peines a fait droit. Et donc, tout le monde a retenu son souffle quand sa défense a obtenu que 5 psychiatres se penchent sur son cas. Et tout le monde a pu expirer joyeusement lorsque les conclusions de ce rapport d'expertise ont été connues. Et comme ces conclusions étaient très défavorables à sa défense, nous nous sommes tout simplement désistés de cette demande. Donc aucune demande n'a jamais été plaidée.
Vous ou lui, qui décide en la matière ? Est-ce qu'il a une part de responsabilité dans la décision d'aller ou de ne pas aller jusqu'à la demande ?
Oui, bien entendu, je ne peux prendre aucune initiative qui n'ait reçu son adhésion. Je ne peux pas poser un acte de défense sur lequel il n'est pas marqué son aval. Nous sommes à ce niveau-là en parfaite accointance de vue. Donc, mais si le fruit n'est pas mûr, je ne vais pas aller plaider des choses absurdes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne défend pas les gens n'importe comment. Je suis un individu rationnel, ça fait 40 ans que j'exerce ce métier.
C'est-à-dire que vous pensez que toute demande de conditionnel est vouée à l'échec ?
Non, pas forcément. En fait, il y a deux soutènements au maintien en détention de quelqu'un. C'est quand on considère qu'en termes de punition, la mesure n'est pas pleine et que si même la mesure est pleine, cette personne reste dangereuse. Alors, sur le premier écueil, je signale qu'il est largement dans les temps pour solliciter sa conditionnelle. Donc, selon la loi belge, il a purgé une partie de sa peine qui est largement suffisante pour pouvoir solliciter sa libération. Donc, ça, c'est très important. Je pense qu'en termes de rétribution de cet tort, donc en termes de punition ou de châtiment de ses méfaits, il a subi une peine suffisante et a fortiori de la manière dont il l'a subi, qui est particulièrement cruelle. Je pèse mes mots.
Et reste
évidemment le deuxième soutènement, qui est que pour l'instant, les psychiatres ont rendu un diagnostic qui est assez sombre, qui considère, avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, qu'ils le considèrent comme étant toujours dangereux à l'heure qu'il est. Et c'est évidemment un diagnostic qui pose question, puisque la dangerosité, c'est un... Pour moi, selon moi, je vais peser mes mots, c'est un pronostic qui est aussi souvent aussi aléatoire qu'un pari sportif, et je pense que les psychiatres n'ont pas pris l'exacte mesure de la situation qu'il avait subie pendant 25 ans. Donc je pense que si on n'opère pas de travail psychologique avec quelqu'un au motif que, de toute façon, il est préposé à mourir en prison, forcément, on casse une possibilité d'évolution, une possibilité d'amendement, dans laquelle la plupart des détenus à de très longues peines ne sont pas du tout dans l'état d'esprit de s'amender, parce qu'ils ne voient pas la sortie du tunnel, et surtout parce que personne ne les aide à faire ce cheminement, si vous me permettez l'expression un peu tarte, vers la lumière.
Alors, il s'agit, je crois, pour obtenir une libération conditionnelle en Belgique, de convaincre 5 juges du tribunal d'application des peines, mais en vérité, est-ce que c'est pas l'opinion qu'il faut convaincre, plus que les juges ?
Alors, Vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est que la Belgique a créé une loi au format de Dutroux. Donc elle a modifié les règles en fonction de son hypothétique remise en liberté, puisqu'on a créé un tribunal particulier composé de, vous l'avez dit, de 5 juges, mais qui surtout doivent statuer à l'unanimité et sans appel. Donc ça veut dire qu'on a réglé...
Ça veut dire qu'il sortira jamais, sa maître.
Ça veut dire que chacun de ces juges sera mis au pied du mur de rendre des comptes à l'opinion, puisque aucun d'entre eux ne pourra se défiler en disant que c'est une décision prise à la majorité, comme c'est toujours le cas lorsqu'une juridiction siège collégialement.
Donc ça sortira jamais.
Alors je vais terminer par une goutte.
D'une seule voix,
à l'unanimité et sans appel. Vous avez compris que c'est pire qu'un peloton d'exécution dans lequel l'un des soldats est armé à blanc. Alors, l'idée est effectivement qu'on ne veut pas le faire sortir et qu'en Belgique, c'est une question qui me vaut l'ire publique. C'est le fait que de poser la question « Pourquoi libérer ?» ou « Faut-il libérer ?» ou « Peut-on libérer Dutroux ?» en tant que tel fait scandale. Quand j'ai affaire à des journalistes étrangers, le débat est nettement plus dépassionné et donc nettement plus rationnel. Mais en Belgique, nous sommes toujours dans un état d'esprit tel que c'est comme si nous nous situions au lendemain des faits. Et l'émotion est tellement palpable et prend encore tellement le dessus sur toute forme de débat qu'il est extrêmement difficile d'avancer sur cette voie. Mais somme toute, je maintiens ferme le cap et je professe des idées qui continuent d'ailleurs, heureusement pour moi, de susciter le débat public, que ce soit auprès d'étudiants, d'élèves du secondaire, donc qui n'ont pas encore leur bac, ou dans toutes sortes de cénacles. Et d'une certaine manière, vous devez savoir que ces idées progressent. Donc l'idée, par exemple, que la perpétuité réelle est une abomination, une forme de peine de mort à vie, fait petit à petit son chemin. Et donc je dirais que si même ma défense échoue concernant Dutroux, concernant Marc Dutroux, je pense que les idées qui ont été avancées dans cette défense, petit à petit, vont faire leur cheminement.
Dans la société. Alors, on a un exemple intéressant, c'est celui de son ex-femme, Michel Martin.
Absolument.
Condamné à 30 ans, qui est donc, qui est donc sorti assez vite, finalement. Est-ce que vous savez ce qu'elle est devenue? On avait donc idée qu'elle était allée dans un couvent de Clarisse, elle n'y est plus, c'est ça?
Alors je vais vous étonner ou vous surprendre. Heureusement, elle est hébergée depuis plusieurs années par un ancien juge qui était président du tribunal de Namur. Et qui, dans un geste tout à fait apostolique, l'a hébergée chez lui, au mépris ou au risque de sa propre intégrité. Et donc, elle est toujours hébergée chez cet ex-juge qui est un éminent juriste, professeur d'université, et qui a montré par son dévouement un exemple extraordinaire, pour le dire tel quel, de charité chrétienne, de miséricorde, d'empathie par rapport à quelqu'un qui était dénoncé par l'ensemble de la population comme étant toujours virtuellement dangereuse. À l'époque de sa sortie, la télévision belge a fait des émissions spéciales qui suscitaient évidemment une levée de boucliers général. Une meute hurlante et vociférante s'est réunie devant le couvent des Malones pour essayer carrément d'attenter à sa vie, et donc il s'en est fallu d'un cheveu que l'on évite la catastrophe. Donc cet exemple est très éloquent concernant la possibilité de reclassement et de réinsertion qui doit rester le but ultime de la punition. La punition n'a pas de sens en elle-même si elle ne vise une autre finalité qu'elle-même.
Vous l'avez vu, vous, Michel Martin, chez ce magistrat? Oui.
je vais confesser que je suis l'ami de ce magistrat, donc par la force des choses, il m'est arrivé de la croiser.
C'est-à-dire qu'on peut avoir été complice, car elle est complice, de crimes pareils, et garder une forme d'humanité.
Sans aucun doute. Je pense qu'aucun criminel, le plus grave soit-il, ne peut être dépouillé de son humanité.
Alors j'ai dit dans mon récit que cette affaire a affecté encore aujourd'hui la justice belge, qui continue d'être victime d'une forme de défiance, vraiment?
Oui, mais ça je pense que c'est une situation qui n'est pas spécifique à la Belgique. Ce qui est spécifique avec l'affaire Dutroux, c'est la place que, par le fait de cette affaire, a pris la victime dans le procès pénal. En l'occurrence, ici, les parents de Mélissa Russo et le père de Julie Lejeune ont été très actifs dans l'opinion et continuent bien au-delà de leur situation de parents, de victimes.
Vous voulez dire qu'ils font de la politique?
ils sont, d'une certaine manière, ils font de l'idéologie, ils font de la politique. C'est presque à leur corps défendant. Mais le fait est que ce sont des héros, des icônes. Ils sont évidemment, et à juste titre, je suis totalement plein de compassion par rapport à leur position de victime. Mais au-delà de ça, ils sont les héros avec H-E-R-A-U-L-T-S, si vous me permettez, d'une cause. Et Monsieur Lejeune n'hésite pas à vouloir se lancer en politique. Et son leitmotiv, c'est la restauration de la perpétuité réelle. Alors en Belgique, la perpétuité réelle...
On parle pas de peine de mort, quand même.
Non. La perpétuité réelle peut exister. Elle est potentiellement possible, si vous me permettez le pléonasme, mais théoriquement, mais elle ne devrait être que théorique. Simplement, comme le TAP est seul juge, le tribunal d'application des peines, il peut toujours décider que la liberté est pour demain et que le fruit n'est pas mûr. Donc, il n'y aura rien d'hérétique à considérer que Dutroux décède centenaire derrière les barreaux. Et d'ailleurs, le plus vieux détenu en Belgique l'est déjà depuis plus de 45 ans.
Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai eu du plaisir à parler avec vous, Maître Bruno Daillé, avocat de Marc Dutroux.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.